Alors la question de Jaïs.
Je voulais dire, Rab, quand on est proche de sa famille ou avec ses proches, on a tendance à être ingrat avec eux et à oublier que c'est quand même un privilège et une chance de les avoir à portée de main et d'être en contact avec eux. Et dès qu'on est un peu plus éloigné ou dans un autre contexte, on commence à prendre conscience de notre faute et de nos mauvais agissements vis-à-vis d'eux. Et je veux savoir comment ça se fait qu'on était si peu objectif quand on les avait à portée de main face à nous. Et comment lutter contre ça en fait? Comment se rappeler que...
Ok, la réponse est relativement simple. Les midot, c'est-à-dire nos traits de caractère. En gros, l'égoïsme. L'ego. Quelqu'un aime ses parents. On sait transposable ta question aussi avec sa femme. Il aime sa femme. Il aime ses enfants. Mais, vu qu'il est proche d'eux, il y a une confrontation d'ego à ego très rapprochée. Je me permets, avec ceux qui sont proches de moi, il n'y a pas de forme de politesse, il y a pas de, on est entre nous. Un exemple que je prends très souvent, les fiancés, au féminin, d'accord, les fiancées, quand elles sont avec leur fiancé, elles voient un vrai gentleman. D'accord? Par ailleurs, il a marché sur le pied, il se confond en excuses. Ça, c'est la période fiançailles avant mariage. Si on se marie, comme hélas beaucoup de Français, après beaucoup de temps, alors la période après mariage commence déjà avant le mariage. D'accord? Parce qu'on est déjà habitué. Comment ces confrontations, déjà les bagarres. Si on est rapide comme il le faut, on se marie dans la paix, dans le bonheur, et la confrontation arrive 2, 3 mois après le mariage. On est à table, et tout à coup, sauf votre respect, burp, il a mangé. Et il fait burp. Il dit, je m'excuse, mais enfin, retiens-toi. C'est sorti. Mais ça ne doit pas sortir. Enfin, c'est pas de ma faute, quoi. Je ne dis pas que j'allais au balcon faire l'euro, d'accord? Ça m'est sorti, c'est très bon, burp, d'accord? Voilà, ça pèse ou pas, c'est comme ça. Jamais il aurait fait ça devant sa fiancée. Jamais. T'imagines, dans les premières rencontres, burp, c'est mort. Je te parle pas des problèmes intestinaux bruyants qui arrivent quelques années plus tard. Chez tous les maris. Et qui dit, mais enfin, mais enfin quoi? Mais, retiens-toi, enfin, je comprends pas, ça se sait pas. Et on est entre nous. On est entre nous. Jamais il ferait ça au travail. Jamais il ferait ça devant ses voisins. Jamais, jamais, jamais. Entre copains dans la chambre ici, ça se peut encore, parce que entre copains des fois, ou à l'armée, comme ça, entre personnes grossières, entre jeunes, on se permet, d'accord? Mais. Quelqu'un qui arrive à une certaine qualité d'âme, respect de lui-même, de soi, mais il ne fait pas ça en public. C'est honteux. Mais honteux devant les autres, devant moi-même, quand je suis tout seul dans ma chambre. Moi avec moi, ça va. Chazal disent bien, Ishto kegufo. Sa femme, c'est comme ton corps. Tes parents, bah, ils t'ont mis au monde. Tu es une partie de leur chair. Donc avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec ma femme, les enfants, non, parce que je dois montrer l'exemple, d'accord? Mais les gens qui sont proches, de qui j'ai pardon, parce que c'est comme moi-même, eh bien, je me permets tout. Et chaque saut d'humeur que j'ai de mon ego, parce que mon ego, il est là, d'accord? Dans toute sa splendeur, s'exprime. Donc, quand je suis avec eux, il y a une confrontation. Et eux, vu qu'ils sont aussi avec leur ego, et qu'ils s'expriment aussi, ben, deux égos qui s'expriment, ça fait la guerre. C'est terrible. Terrible. Attends, mais tu les aimes. Quand tu t'éloignes, il y a plus de confrontation entre les égos. Parce que ton ego, il n'est pas en confrontation avec eux. Tu es avec les copains ici, eux sont là-bas. Tout à coup, maintenant, l'amour que tu as, ben, il revient. Vu qu'il n'y a plus les nerfs, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus tu m'as touché, tu m'as fait du mal. Il n'y a plus ça. Il n'y a que le bon côté qu'on s'aime bien. On se met à regretter maintenant les mauvais moments. Mais repars, ça reviendra. À moins que tu fasses un vrai travail maintenant avec ta tête de comprendre que tu as un ego. Et c'est pas parce que maintenant on est proche qu'on doit se comporter comme des animaux. C'est-à-dire l'ego, il est animal, il est mauvais, c'est le mal, le mal. Il faut casser notre ego, messieurs, cassez-le. Tous les divorces qu'il y a aujourd'hui, c'est que des problèmes d'ego. Presque tous les divorces. Toutes les mésententes, tout ça, l'ego. Carpette. Tu veux de la Torah? Tu veux de la Torah? C'est marqué, si on trouve la Torah est comparée à l'eau. L'eau, elle descend. C'est quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui se fait petit, en bas. Chez lui, il y a la Torah. J'ai vu des grands de Torah. Quelle humilité! Rabbi Tzadok Shaul, Zatzal. Est-ce qu'on a quelqu'un de plus grand que lui? En Gemara, en Ruach HaKodesh, en Mira qui faisait, un des top niveaux du monde. Il se prenait pour rien. On le prenait pour rien. Il y avait une voiture, pas de voiture, prenez le bus comme tout le monde. Un jour, il attend le bus. Le conducteur de la guette, tout à fait typique, s'arrête, lui lance sa serviette, nettoie-moi le pare-brise. La Rabbinson monte sur le pare-choc et commence à nettoyer le pare-brise de l'autobus. Les gens veulent Kvodara, ils ont descendu. Il m'a demandé de lui rendre service. Rabbi Moshe Feinstein, le plus grand rabbin des 50 dernières années à l'étranger. Rav Moshe Feinstein, qui s'appelle Moshe, il a la prière, il finit la prière en train de ranger cette filine. Tout coup, il y a un jeune Américain qui demande à son copain, « Moshe, quelle heure il est ?» Alors, Moshe, je regarde, 7h30. L'élève devient tout ouvert. « Kvodarav, je n'ai pas parlé à vous, j'ai parlé à Moshe, là, mon copain, pas à vous. Mais je m'appelle aussi Moshe, il répond, il n'y a pas de problème, tu demandais quelle heure il est. » Là, il y a toi, l'humilité. Mais c'est un travail. Où on fait le travail? Quand il y a confrontation? Alors, plus forte raison, lorsqu'on est en famille, c'est la raison du mariage. Pourquoi Dieu l'a créé maintenant qu'on doit se marier? La vraie raison, t'apprennes à écraser ton ego. Ton ego, il fait écran entre toi et Dieu. C'est animal, c'est mal, c'est animal et mal, l'ego. Il faut le casser. Un des moyens, c'est la femme. Parce que quand ton ego s'exprime, alors ta femme, elle se met à pleurer. T'es embêté, ou se met à crier, à toutes sortes de réactions possibles. D'accord? Elle aussi. Oui.
Le fait de l'écraser par la femme.
Ta question a très souvent été posée. Est-ce qu'on n'a pas peur, si on écrase trop notre ego, de se faire écraser par la femme ou par quelqu'un d'autre? Je ne dis pas qu'il faut toujours accepter la vie de l'autre. Mais quand quelqu'un me fait du mal, me touche dans mon ego, et j'ai une réaction qui provient de la partie estomacale de mes midotes de mon ego, et je réagis. C'est pas réfléchi, c'est pas rationnel, c'est une réaction. J'ai été touché, je réagis, c'est animal. Ça, on s'écrase. Carpette. Après, quand tout est calmé, quand tout est fini, 1, 2, 3 jours plus tard, il y a un problème à régler, on en parle. Mais c'est mon esprit intelligent, avec ma raison, qui s'adresse à l'esprit intelligent de ma femme ou de mes parents ou de qui que ce soit. Sans nerfs, sans rien. Comme je dis ce matin, tu mets une tartine avant. Chérie, tu es la plus belle femme du monde, je t'adore, tu es fantastique. Tu sais, hier, on a un petit problème. Ça me ferait plaisir peut-être qu'on en parle. Je pense qu'on pourrait faire un peu mieux les deux. Pas elle, tu sais pas te conduire avec ton ego à la noix. Ça, tu lui dis à ta femme, elle s'énerve de nouveau. Nous deux, on pourrait ensemble arriver pour la bonne entente de faire ainsi. D'accord? Beaucoup de délicatesse. Et beaucoup de compliments avant, beaucoup de compliments après. Parce qu'une personne n'aime pas entendre une remarque. Personne au monde n'aime entendre une remarque. Mais si tu lui donnes 100 compliments avant, 100 compliments après, alors une remarque au milieu, ça va. Ça passe, battez le Bérov, c'est annulé dans la majorité. Mais c'est vrai. Non, regarde, le coup des 100 compliments, si le type, il est toujours... C'est un mari idiot. Il ne fait jamais de compliments à sa femme. Et quand il veut faire une remarque, il commence ses compliments. Sa femme, elle voit, oulala, qu'est-ce qui va... Le nombre de commentaires qui se prépare là, ça va être terrible, la rafale qu'il y aura après. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Un mari normal, il fait minimum 50 compliments et mots d'amour à sa femme tous les jours. Minimum. Et première année, 100, 150. Et par rafale. Par rafale, messieurs les nouveaux mariés. Et la femme aussi. sur son mari. Sinon, ça ne marche pas. Il y a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Rambam dit, mitzvah de la Torah, c'est pour cela que quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Pas le voler, c'est déjà marqué, tu ne voleras pas. Pas le baisser avec la parole, c'est marqué, tu n'as pas le droit de baisser avec la parole. Qu'est-ce que je dois faire ? Dit Rambam, Maïmonide, et sa père Béchifro racontera sa louange. Yaakov. Deux mots. C'est beau, hein ? Ça fait pas plaisir d'entendre ça ? N'importe quelle personne, tu lui dis, tu sais, j'ai réfléchi, franchement, t'es un type bien. Je dis à quelqu'un, tu sais, j'ai réfléchi, t'es un type bien. Vraiment, je t'estime. Ah ! Il est heureux. Donc, qui doit dire ça ? Ton directeur ? Ton élève ? Tes copains ? Bon, mais c'est accessoire. Ta femme. Et la femme, son mari. Donc, dans... Jamais trop. Jamais trop. Il y en a qui disent, non mais si je dis ça, ça n'a plus de valeur. C'est faux. D'abord, c'est nécessaire, il faut que ce soit la musique ambiante dans la maison. Ces compliments, ces mots d'amour. Ensuite, quand tu veux mettre vraiment un bon point, d'accord, tu peux le dire en trémolo. D'accord ? On peut se mettre en condition maintenant de super authentique, super vrai, les yeux dans les yeux, comme ça, et la faire pleurer. Tu peux aussi. De temps en temps, il faut aussi. C'est bien. Mais qu'en général, il y ait cette ambiance dans la maison, c'est nécessaire. Sans ça, ça ne marche pas. Maintenant, vu qu'il y a ça dans la maison, tu peux te permettre de dire aussi des remarques de temps en temps. Une remarque pour 100 compliments, pas plus. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Attends, pourquoi je disais cela ? Donc, quand je dis qu'il faut s'écraser, c'est pas au niveau qu'on accepte tout, c'est au niveau dans la réaction animale qui est sur le moment parce que je suis énervé, j'ai été touché, d'accord ? Là, il faut s'écraser. C'est là que l'ego est touché. Après, c'est pas l'ego, c'est la raison. La raison indique que je peux faire entendre à quelqu'un un discours raisonnable. C'est quoi la raison ? La raison, c'est le paramètre unique au monde qui est universel. Si A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C. Ça, c'est un raisonnement. C'est universel que tu changes de monde, de planète, de population, quoi que tu veuilles, ça restera toujours. C'est le seul moyen qu'on a de communiquer. Parce que quand je raisonne, tu peux m'entendre, parce qu'on est, les deux, on fonctionne sur un même système de raisonnement qui est universel. Donc, tu dois entendre ce que je dis. Ce que je dis est censé. On va discuter, gentiment, voir qui a raison. Pas, je veux marquer le point. Et peut-être que c'est vrai que j'ai tort et je dois être prêt à accepter. Pas facile. Pas facile, messieurs. Oui.
Des fois, il y a une ambiance, parce qu'on est énervé, on se prend beaucoup de concentration, et qui vont vers la fin, on n'est jamais raisonnable, on est toujours énervé, toujours nerveux face à la personne qui...
Ah, c'est très mauvais. Lorsqu'on est déjà sur la pente, c'est-à-dire que chacun fonctionne maintenant en mode égo destructeur, évidemment, quelqu'un qui est destructeur sans cesse, au coup il me fait un grand sourire, je lui dis « dégage ». D'accord, c'est normal. Il faut casser la glace. Quelqu'un qui a beaucoup détruit, maintenant il veut être gentil, il doit donner beaucoup de compliments, beaucoup de gentillesse dans le vide. Attendre que la personne a peur de se dévoiler. Quand on fonctionne en mode égo-destructeur, chacun se crée une carapace. Pourquoi ? Parce qu'il est touché. Donc pour se préserver, il est obligé de créer une carapace qui le préserve. Alors, quand l'autre il devient gentil, il a peur de s'ouvrir. Parce qu'il est gentil, dans une minute, il va encore me dire un gros mot. D'accord ? Donc moi, je reste sur mes gardes. Il faut rétablir une confiance. Ça peut prendre des mois, des années. Où je vois que le type, c'est terminé. Il ne s'énerve plus. Il dit plus gros mots. Il a changé. Je m'ouvre. Et le type doit être intelligent que quand l'autre s'ouvre, pas de nouveau de rentrer dedans. Évidemment. C'est un travail. Mais c'est possible. C'est possible. On préfère faire un... C'est pour ça que nous recommandons, et comme ça nous agissons, qu'avant les mariages, il y a une formation qui est nécessaire. Attends, ça ne se faisait pas. Il y a 50 ans, un siècle, c'était inutile. Parce que les gens étaient habitués à se battre et accepter, à casser leur ego. Aujourd'hui, on est société de l'ego, numéro un. D'accord ? Profite au maximum. Tu es là pour toi. Toi, toi et encore toi. Que toi. Éclate-toi. Peu importe les conséquences. Et le mariage, c'est clairement le contraire. Éclate-toi. Détruis-toi. T'existes pas. Rien que pour l'autre. C'est ça le mariage. Donc, il faut une formation minimale que le type, il entende au moins une fois ça dans sa vie. Après, il voit très vite sur le terrain. Au moins qu'il a entendu, qu'il réagisse bien. Pourquoi doit se marier ? parce qu'avec son copain, alors la question est comme ça, quelqu'un qui a déjà ce travail avec son copain de chambre, et qui est arrivé à une très grande humilité, ouais, une très bonne nature, une très bonne midote, il est déjà très humble et carpette quand il faut. Pourquoi il se marie? D'abord, il y a un comparé entre sa femme et son copain de chambre. Copain de chambre, qui qu'il soit, c'est jamais ta femme. La femme, il y a une vulnérabilité beaucoup plus grande, il y a une sensibilité beaucoup plus grande, il y a une relation qui est beaucoup plus haute, il y a un amour, il y a un truc. Plus l'amour est grand, plus la dissonance, le bémol se fait entendre et il fait mal. Normalement, tu n'es pas amoureux de ton copain de chambre, mais elle sera ta chaîne, d'accord? tu l'aimes bien, d'accord? Mais l'amour, c'est autre chose, c'est un niveau beaucoup plus haut. Donc, chaque petit manque de délicatesse se fait ressentir. Très souvent, les maris rentrent à la maison, les premières années, et ils voient leur femme en train de pleurer, tout ce que elle se met à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et la femme ne parle jamais. La femme, il faut deviner. L'homme, il est rationnel. La femme, c'est pas comme ça. La femme, tu dois... Quoi? Tu n'as même pas compris pourquoi je pleure. Ah, c'est parti, t'es parti pour 3 jours, elle te fait la tête, d'accord? Tu dois deviner, mon cher ami. Mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, et quand tu me sens vrai... Rien. Elle est touchée, donc elle n'était même pas fichue de voir, d'accord? C'est des formations, d'accord? On apprend comment... Au moins savoir que c'est normal que ça arrive. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pourquoi? Et comme ça, la femme éduque le mari, parce que lui, il ne sait pas. Il se croit encore avec ses copains à la yeshiva. Mais qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est pas si grave. Elle est touchée par ça. La barre, elle est très haute. Plus l'amour, il est fort, plus la barre, elle est haute. Maintenant, l'amour aussi, c'est créer vraiment une union très grande. Parce que s'il y a vraiment une vraie union, et un don total l'un vers l'autre, un grand amour, présence divine qui vient. Et l'homme a besoin de la femme. Et la femme a besoin de l'homme. Les deux font une unité qui est fantastique. C'est le but de la création. C'est quelque chose de très, très grand. C'est pas que s'écraser. On peut arriver au très grand que en s'écrasant. Mais le but, c'est le très grand. C'est pas que le fait de s'écraser pour s'écraser. Le but du mariage, c'est Tov. Être Tov, c'est être à l'image de Dieu, être un donneur. Donneur signifie, je ne suis pas égaux et je suis dans le don vers l'autre. Mais le don vers l'autre, c'est la chose la plus bonne qu'il y a au monde. L'amour, c'est beau l'amour. Quand on donne pour donner, c'est la chose la plus belle qu'il y a. Donc, pour récapituler, pour répondre à ta question, quand on est proche, il y a confrontation, parce qu'il y a ego. Quand on s'éloigne, la tête se met à fonctionner plus intelligemment, et l'amour revient. C'est ce moment-là qu'il faut travailler maintenant. Travailler pour analyser où il y a eu confrontation, qu'est-ce que je fais la prochaine fois. Oui, il faut, ta question, est-ce qu'on peut fuir quand il y a conflit? Il faut fuir. C'est pas le moment de calmer l'autre. Il faut fuir, la meilleure chose à faire, c'est fuir. Ta mère te crie dessus, ta sœur, ta femme. Ouais, rien du tout. Tu sens, vu que tu es maintenant sur les nerfs, tu te maîtrises à peine. C'est une situation extrêmement dangereuse où on fait des bêtises. Donc on décroche. Et on décroche, on arrête, on part. Et l'autre ne part pas, d'accord? Et l'autre veut continuer, d'accord? Et c'est vrai que l'autre s'énerve, mais si tu restes, ça va être encore pire. Le mieux est, quand il y a... Ce qu'il faut faire dans tout, c'est dans les familles, d'accord, dans les couples, dans les familles, non. C'est quand tout va bien, mettre en place d'un commun accord une stratégie de fonctionnement de la famille quand ça ne va pas. Et alors, ce que je suis en train de parler maintenant, quand tout va bien justement, on dit, regarde, on s'aime beaucoup, mais bon, ça arrive, des fois on s'entend pas tout ça. Je te propose la prochaine fois, comme ça j'ai entendu le rabbin, ça vaut la peine de faire comme ça, que vu que de toute façon quand on s'énerve, chacun va avoir le dernier mot, il n'est pas d'accord, il est touché, et on parle pas intelligemment, on s'énerve. Dès qu'on voit qu'on s'énerve, on arrête. Elle dira oui, tout le monde dira oui. Sur le moment, après... Alors toi tu vas être fort pour oui partir. Et cette stratégie, il faut en parler, le seul moyen de récupérer quand ça va pas, c'est dans le moment où ça va. Un couple qui est en voie de divorce, où ça ne va plus du tout, c'est très dur à récupérer, parce qu'il n'y a plus le moment où ça va. Mais quand il y a le moment où encore ça va, là, il faut travailler pour savoir comment on va agir quand ça ne va pas, quand ça n'ira pas. Parce que c'est certain que ça n'ira pas. Il y a des moments, que, dans tous les moments de pression, dans tous les couples, ça existe. Il faut mettre sur pied quand ça va, comment on va agir quand ça ne va pas. Et on en parle souvent. Alors quand ça ne va pas, d'un coup, on peut repartir. Tout souvent, on avait parlé comme ça. Tu étais d'accord? Maintenant, je ne suis plus d'accord. Bon, ok, on en reparlera quand ça ira mieux. Et tu pars. D'accord, voilà. Meilleure chose à faire. Meilleure chose à faire. Tolé Eretz al Blima, dit Chazal. Le monde est suspendu sur celui qui freine sa bouche quand il y a la bagarre. Le monde est suspendu sur ça. C'est dur. David Ameller. Il a appelé quatrième roue du chariot divin. C'est pas n'importe quoi, hein. Les trois premiers, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quand David Ameller est-il devenu le quatrième roue du chariot divin? Nous, on aurait dit, il a fait les Tehillim, il se levait toujours à minuit, il a écrit les Tehillim. Il a amené l'Arche d'Alliance à l'endroit du Temple. Il a gagné les guerres contre les ennemis pour Dieu. Rien du tout. Rien de tout ça. Quand? Il a vaincu Goliath? Rien. Il est en train de fuir. Son fils, son propre fils, Absalom, a fait un putsch militaire contre lui. Il prend sa famille et il part. Il est en train de monter le mont des Oliviers. Il fuit de sa maison. Vers le chef du Sanhedrin, Shimi ben Gera. Tamil Chacham, pas un voyou. Commence à lui jeter des cailloux, du sable à terre, devant ses servantes, devant ses enfants, devant ses femmes. Bakilani, il m'a maudit, Klanimretset. Des insultes, Nimretset. Super fort, Nimretset. Chazal, on dit Nimretset, c'est racheté vote. Noef, t'as fait l'adultère. Hein, avec Batsheva. Noef, adultère, devant ses gosses, tu lui dis. Noun, même, Mored, tu t'es révolté contre ton maître, le roi Shaoul. Rodef, t'es un poursuiveur, t'as tué des gens. Tsorer, t'es un persécuteur. Toeva, dégoûtant, horreur. T'imagines, Arvodi Yosef, Abraham Kanev, qui est grande génération, c'est le grand génération qui vient et qui fait comme ça. Il y a avec David son général des armées, Yoav ben Tsruya, qui sort son épée, qui dit, laisse-moi, je vais tuer ce chien. Il a le droit. D'après la Torah, quelqu'un qui fait une chose pareille au roi d'Israël, de plus, et qui a été sanctifié, qui a été sacré roi par un prophète avec l'huile d'onction, mérite la mort, sans aucun problème. Il doit le tuer. Pour le tikkun de chimie, il doit le tuer. Mais sans, je ne sais pas, il n'y a pas un peu de nerf là-dedans. Il n'y a pas un peu de l'oleshem shamaim. Je n'ai pas tout à fait désintéressé que je dis vraiment pour son tikkun à lui ou parce que ça me fera du bien un peu comme ça de lui apprendre une bonne leçon. Il dit à Yoav, laisse, Dieu l'a envoyé pour m'insulter. À ce moment, il est devenu la quatrième roue du chariot divin. Donc messieurs, vous avez compris quelle est la leçon. Le roi David dira après, avant de mourir, il dira à son fils Shlomo, Shimon ben Gera, il a fait ça et ça et ça, pour son tikkun, il ne doit pas mourir normal. Et Shlomo s'occupera, fera une combine pour que Shimi tombe dans le panneau et se fasse tuer pour avoir son tikkun. Mais David ne voulait pas. Et surtout pas sur le moment. Et à ce moment-là, qui s'est retenu alors qu'il avait plein droit de le faire, il devient la quatrième roue du chariot divin. Baruch Adonai, l'Oman Mamer.